Pour ses petits-enfants, Maddy a toujours été une star éblouissante. En mai 68, jeune veuve de 43 ans, elle est allée à Paris pour faire la révolution. Elle a lancé des pavés et crié « CRS, SS !» participé à des réunions agitées, fumé des substances interdites. Et puis elle est rentrée à la mi-juin dans sa grande maison de la Croix-Pilate. Il fallait donner des instructions aux domestiques pour que tout soit en ordre à l'arrivée des enfants qui rentraient pour l'été, de pension, de l'université ou, pour Catherine, la mère de Bérangère, de voyage de noces. Depuis, Maddy se proclame « de gauche », ce qui a contribué à la brouiller avec une partie de ses vieilles amies. « Bon débarras », a-t-elle commenté, et a fortement agacé ses enfants. Quand elle habitait encore à la Croix, elle commandait chaque Noël un immense sapin qu'on installait dans le hall, au pied du grand escalier. La cime montait plus haut que le premier étage et il fallait se pencher au-dessus du vide, dans les bras de papa, pour raccrocher l'étoile au sommet. Chaque année, Maddy décorait le sapin de couleurs différentes, rouge et or, bleu et argent, vert et rose, avec de vraies bougies. Une année, le sapin a pris feu. On a eu très peur et on a bien ri, une fois l'incendie maîtrisé, devant l'air pitoyable de l'arbre magnifique, à moitié calciné. L'année suivante, Maddy a renoncé aux bougies, mais la rampe d'escalier en fer forgé a été intégralement habillée d'un rideau d'ampoules lumineuses. L'entrée de la maison de Maddy ressemblait à celle d'un domaine enchanté. Bérangère ferme les yeux. Elle laisse se succéder les images heureuses de son enfance. Au volant de sa Triomphe décapotable, Maddy file en trombe vers le boulevard Haussmann. Elle dévalise les grands magasins pour ses petites filles avant de les emmener manger des pâtisseries chez Édiard. Maddy laisse Bérangère essayer les robes de bal qu'elle a conservées de sa jeunesse. Le dressing est immense et sombre. À travers les housses, Bérangère voit briller les étoffes somptueuses. Maddy lit les histoires fantastiques de Lovecraft à ses petits-enfants d'un ton lugubre et inspiré. Bérangère a 8 ans. Elle sent les frissons d'une terreur délicieuse glisser le long de son dos. Pendant des semaines, elle fait des cauchemars. Le cadavre décomposé d'une femme mystérieuse vient chaque nuit dormir à ses côtés. Elle n'ose pas le dire à sa mère pour ne pas causer d'ennui à Maddy et pour que les histoires continuent. La porte de la salle de bain s'ouvre et Maddy entre à pas menus. Elle s'est démaquillée. Elle a l'air fatiguée. « Je vais me coucher maintenant. » Bérangère ouvre le lit, aide sa grand-mère à allonger les jambes, la recouvre. « Tu n'auras pas froid ? Tu veux que je mette aussi le dessus de lit ? Non, non, ça ira comme ça. Tu peux éteindre la lumière. » Bérangère presse l'interrupteur et le visage de Maddy disparaît dans l'obscurité. Au bout de quelques instants, il réapparaît dans l'ombre, fragile et blanc, posé au creux de l'oreiller dont les plis forment comme une étoile noire. Maddy a les yeux ouverts. « Tu es bien ? Tu n'as besoin de rien ?» La vieille dame murmure. « Je suis bien. Est-ce que tu veux bien rester encore un tout petit peu avec moi, ma chérie ?» Bérangère s'assied sur un fauteuil crapaud juste à côté du lit. Elle lui prend la main. Dans le noir, elle entend la voix de sa grand-mère, très douce, très distincte. « Ma chérie, je n'aime pas parler de ça, mais il faut bien le dire. Je crois que je n'en ai plus pour très longtemps. »«
Qu'est-ce que tu racontes ? C'est vrai que tu as eu pas mal de pépins de santé ces derniers temps, mais regarde-toi, tu pètes la forme, Maddy. Tu manges comme quatre. Tu continues à lire le journal. Tu traites tout le monde d'abruti. »
Bérangère sent, au moment où elle les prononce, que ces paroles ne convainquent personne, ni elle ni sa grand-mère. Elles ne servent qu'à prolonger l'illusion que tout est comme avant, alors que tout est changé.
Tu sais, ma chérie, il y a un moment où il faut arrêter de mentir, et peut-être même de se battre, pour se concentrer sur les choses essentielles, pour faire le point en quelque sorte. Partir en ayant tout passé en revue.
Pourquoi tu dis ça, Maddy ? Pourquoi tu me dis ça maintenant ?
Parce que j'ai envie de te le dire maintenant. Parce qu'il n'y aura peut-être plus tant d'occasions que ça. Tu vois, ce soir, je t'ai tenue dans mes bras. J'ai vu ton visage. Combien tu es belle. J'ai toujours su que tu deviendrais une très jolie femme, une femme de goût. »
Elle se tait un instant comme perdue dans ses pensées, puis elle a un petit rire.
« Quand tu étais petite, je te prenais dans mes bras dans l'appartement de la rue Ampère et je te montrais tous les tableaux, tous les vases de porcelaine. Je te disais le nom des couleurs. Je te les faisais toucher du doigt. Tu aimais surtout le rose et le bleu, comme moi. »
Bérangère ne dit rien. Elle laisse parler sa grand-mère. Elle colle sa joue contre sa main.
« Ma chérie, ce soir, tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse de te savoir mariée avec ce garçon. Il est très bien, vraiment très bien. »
« C'est vrai, Maddy, il est très bien, il est parfait. »
« Tu sais, quand vous êtes venue me voir à Noël, j'ai tout de suite su que c'était le bon. C'est sûr. Je vais te dire pourquoi, ma petite. Non seulement il est beau et intelligent, mais en plus il a de l'humour. Tu te souviens comme il m'a fait rire ?
C'est vrai, il a énormément d'humour. Moi aussi, il me fait beaucoup rire. Avant lui, je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui me fasse rire comme ça.
Le sens de l'humour, c'est une chose rare, je peux te le dire. C'est pour ça que c'est le bon. Parce qu'on a beau épouser Monsieur Parfait, si Monsieur Parfait n'est pas drôle, on finit par s'ennuyer. S'ennuyer à mourir.
Bérangère rit. La joue contre la main de sa grand-mère. Elle demande « Tu parles d'expérience, Maddy ?» La main de Maddy tremble et Bérangère regrette aussitôt ses paroles. Dans la famille, on ne pose pas de questions indiscrètes. On ne sollicite pas ce genre de confidence. Bérangère murmure « Excuse-moi, Maddy, je ne voulais pas... » D'un coup, elle se sent très malheureuse. Elle a beau aimer plus que tout sa grand-mère, avoir partagé avec elle des moments merveilleux, elle ne sait quasiment rien de son histoire. De la jeunesse de Maddy, elle ne connaît que des photographies dans l'album de famille. Maddy en manteau de fourrure au volant de sa Bugatti, Maddy en tailleur New Look tenant un bébé dans les bras, Maddy jouant au tennis, Maddy posant avec grand-père, leurs 6 enfants et un énorme chien noir devant la maison de la Croix-Pilate, Maddy après la mort de grand-père, durant sa période perruque et whisky, discutant politique avec oncle Jacques tandis que tante Florence et tante Isabelle se tiennent aux aguets, l'air inquiet, prête à éteindre tout début d'incendie. Bérangère sait que Maddy a été une femme très belle, très élégante, très riche, qui a eu 6 enfants, un mari médecin et une grande maison. Elle ne sait rien, au fond. Si une question indiscrète lui a échappé, ce soir, c'est qu'elle mesure, malgré toute la tendresse de leur relation, combien leurs rapports ont été superficiels. Des moments heureux, des joies partagées, et finalement peu de discussions profondes, de confidences, d'échanges qui auraient donné du poids à leur intimité. Elle entend la voix de sa grand-mère, douce et grave.
« Tu veux savoir si j'ai été heureuse avec ton grand-père ?»
Bérangère murmure. « Je veux bien que tu me parles de toi et de lui, mais je ne veux pas être indiscrète. »
« Tu sais, ma petite, il y a un moment où on a le droit d'être indiscret. Il faut savoir se dire les choses importantes avant de se séparer. Qu'est-ce que tu sais de ton grand-père ?»
Elle ne sait rien de son grand-père. Ni sa mère, ni ses oncles et tantes ne parlent de leur père, sinon pour évoquer ses succès professionnels. Grand-père était un grand médecin. C'est en réalité tout ce qu'elle sait de lui.
C'était un grand médecin ? Maddy a un rire bref.
« Eh bien, ma chérie, tu sais l'essentiel. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. »
Bérangère dit à voix très basse. « Ça veut dire que tu n'as pas été heureuse avec lui ?» Maddy se tait. Elle semble perdue dans des souvenirs lointains, à la recherche d'images et de mots enfouis depuis très longtemps.
« Je vais te dire une chose, ma chérie. » Que je n'ai jamais dit à personne. »
Bérangère sent que son cœur d'un coup bat plus vite, plus lourdement, comme s'il se préparait à recevoir une émotion violente. Sa grand-mère reste un instant silencieuse et Bérangère a l'impression d'entendre résonner dans la pièce les battements de leurs 2 cœurs. La musique, tout à l'heure si envahissante, lui semble à présent très lointaine, imperceptible, comme si la chambre avait été transportée en un instant dans un endroit secret, loin du monde et de la fête. Elle entend sa grand-mère murmurer
« En m'épousant, Ton grand-père m'a rendu service. À l'époque, c'était même un très grand service qui me tirait d'une situation bien embarrassante. Pour cela, je ne lui serai jamais assez reconnaissante. La voix de Maddy tremble. Elle se tait un instant. Bérengère frissonne. Elle n'est pas sûre d'avoir compris, et pourtant, même dite à demi-mot, les choses semblent claires. Elle entend Maddy murmurer.
Évidemment, j'étais jolie et puis j'héritais d'une clinique, ce qui rendait les choses moins désagréables et même assez intéressantes.
Bérengère demande d'une toute petite voix. Maddy, est-ce que j'ai bien compris ce que tu veux me dire? Une situation bien embarrassante, ça veut dire que tu étais...
Oui, tu as compris, ma chérie. J'étais jeune. J'avais 20 ans. C'était juste après la guerre.
Bérengère réfléchit très vite. Juste après la guerre, 1945, l'année de naissance de sa mère, l'aînée des 6 enfants de Maddy. Elle murmure abasourdie. Maman?
Oui, ta mère.
Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as été abandonnée?
Maddy répond tristement.
Abandonnée? En un sens, oui. Abandonnée.
Elle reste un long moment sans rien dire. Bérengère a l'impression qu'elle pleure. Mais non, elle ne pleure pas.
Elle se souvient. Il était séduisant. Il était brillant. Il était drôle. Il venait d'un milieu très simple et n'avait pas un sou. Il travaillait pour payer ses études d'architecture dans un restaurant chic où j'avais été plusieurs fois invitée à déjeuner. On s'est remarqué. Les choses se sont faites peu à peu. J'étais effrontée pour une jeune fille de mon âge et de mon milieu. Je crois surtout qu'être amoureuse me donnait toutes les audaces. J'ai eu cette aventure. Personne n'a eu le moindre soupçon.
Elle rit d'avoir si bien trompé son monde. Mais Bérengère le devine, ce que va lui raconter sa grand-mère n'est pas si drôle.
À l'époque, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. On ne se débrouillait pas très bien. J'étais totalement ignorante de ces choses-là. Enfin, voilà, je me suis trouvée enceinte. Quand je m'en suis rendue compte, je n'ai même pas été effrayée. J'étais trop amoureuse. Lui était assez bouleversé. Il voulait m'épouser. Mais il savait qu'il ne représentait certainement pas pour ma famille le parti idéal. Il m'a dit « Il faut parler à tes parents. Je vais leur demander ta main. » J'étais folle de joie. Je ne voyais pas les difficultés. Je me moquais bien que mes parents soient furieux. Ils m'avaient toujours passé tous mes caprices. Je savais qu'ils finiraient par accepter ce mariage. De toute façon, vu mon état, ils n'avaient guère le choix. J'étais sûre que tout se passerait bien. La guerre était finie. J'allais être sa femme. Nous avions la vie devant nous. Ce jour-là, je l'ai quittée en riant presque. J'ai couru dans l'escalier en pensant « Pas trop vite, attention au bébé !» On devait se retrouver le lendemain dans une auberge d'Archambault pour décider de la façon dont on allait s'y prendre. Je me souviens, c'était un mardi. Il n'est jamais venu. Pendant 2 jours affreux, j'ai cru à l'impensable. Qu'il m'avait abandonnée. Le vendredi, je suis allée au restaurant pour avoir une explication avec lui. C'est là que j'ai appris qu'il s'était tué en moto 3 jours plus tôt, en roulant sous la pluie sur la route d'Archambault.
Maddy se tait quelques instants. Bérengère voit ses yeux ouverts sur l'obscurité et l'entend respirer un peu plus fort. Elle devine que la vieille dame fait de gros efforts pour conserver son calme.
Souvent, je pense... S'il n'y avait pas eu de pluie ce jour-là, peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'accident. Peut-être qu'on se serait mariés. Peut-être, peut-être. Mais ça ne s'est pas passé comme ça.
Bérengère sent sa main trembler.
Tu vois, une chose affreuse quand on est vieux, c'est qu'on n'a plus de larmes. J'ai les yeux secs et malades. Je n'arrive même plus à pleurer comme je voudrais, comme il mériterait de l'être encore, 60 ans après.
Bérengère est incapable de dire un mot. Elle se contente de serrer la main de sa grand-mère.
Tout a été pour moi si terrible. Ce n'était pas la peine de chercher à dissimuler. J'ai pleuré tout ce que je pouvais pleurer. Je l'avais perdue. Je me retrouvais seule, dans une situation terriblement compromettante. Enceinte sans être mariée, j'allais devenir ce qu'on appelait à l'époque une fille-mère. Mon père faisait de la politique et il y avait la clinique. Ce serait un énorme scandale. Lorsque mes parents ont su, ils ont tout de suite pris les choses en main. Il n'était bien sûr pas question d'avorter. Ils voulaient que j'abandonne le bébé. À l'époque, c'était fréquent. Il y avait des endroits où l'on pouvait séjourner quelque temps pour cacher les grossesses déshonorantes et accoucher dans la discrétion. C'était des bonnes sœurs qui s'en occupaient. C'était très bien organisé. Mes parents avaient déjà tout prévu, mais je n'ai pas voulu. Dans un sens, ça aurait été plus simple pour moi d'abandonner le bébé. Seulement, je ne m'en sentais pas capable. C'est tout ce qui me restait de lui. Je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadée que ce serait un garçon et j'avais déjà prévu de l'appeler comme son père. Quand mes parents ont vu que je ne céderais pas, ils m'ont proposé un arrangement. Je pouvais garder l'enfant, mais je devais sauver les apparences. Autrement dit, me marier sans attendre. Ils m'ont clairement fait comprendre que c'était leur dernière offre. Je n'avais pas le choix. Si j'avais refusé, on m'aurait enlevé le bébé d'une façon ou d'une autre. J'ai dit oui sans hésiter. Je ne pensais qu'à une chose, garder l'enfant. Quand je vois les femmes d'aujourd'hui, je me dis que j'aurais été capable, sans doute, de résister, de partir et de me débrouiller toute seule. Mais tu vois, on n'élevait pas les filles de la même façon à l'époque. J'étais enfant unique, très gâtée, très jolie, excellente joueuse de tennis. J'avais beaucoup de succès dans les bals de la bonne société. Pour une fille de mon milieu, ça tenait lieu de réussite. J'avais passé le bac, mais on ne m'avait pas vraiment poussée à faire des études. Jamais je n'avais envisagé de travailler, de me débrouiller par moi-même, de gagner ma vie. J'avais l'impression de n'avoir aucune solution, aucun moyen de refuser ce qu'on voulait m'imposer. Alors j'ai accepté. Tout a été mené rondement. Mon père est allé trouver le plus brillant des jeunes médecins de son service, celui pour lequel il avait le plus d'estime, et lui a mis le marché en main, si j'ose dire. Je ne sais pas en quels termes il lui a présenté la chose, mais l'idée générale était « Vous acceptez d'endosser cette paternité et, pour paiement de votre sacrifice, vous épousez une héritière. Une brillante carrière s'ouvre devant vous. » Ton grand-père a répondu « Je ferai n'importe quoi pour votre fille. » Sans doute eût-il été plus exact de dire « Pour votre fille et pour votre clinique. » Mais passons. Mon père était satisfait. Le mariage a eu lieu. Malgré mon état, ou peut-être à cause de mon état, mes parents n'ont pas voulu que les choses se fassent dans la discrétion. Je portais une robe spectaculaire, des mètres et des mètres de dentelle et de satin. Tout cela pesait au moins 10 kilos. Je me souviens, j'étais empêtrée dans ces voiles, si nauséeuse, si fatiguée. J'ai vécu cette journée comme un cauchemar éveillé. Je ne comprenais pas ce que je faisais là, devant l'autel, à côté de ce jeune homme assez beau, assez content de soi et de sa bonne fortune. En réalité, j'étais loin, avec mon amant disparu. J'étais à un bal un soir de juin et je dansais à m'étourdir. J'étais dans un café avec lui et il me réchauffait les doigts entre ses mains. J'étais dans une chambre d'étudiant et je me donnais à lui sans retenue. J'étais derrière lui à moto sur une route de campagne. Je priais. Je suppliais un mort de revenir. Après, nous sommes partis pour un long voyage de noces de plusieurs mois. C'était la mode à l'époque dans notre milieu. En fait, nous avons passé la majeure partie du temps sur la côte basque, puis sur la côte d'Azur. Dès que mon ventre a commencé à s'arrondir, mon mari ne m'a plus touchée. Puis il est rentré reprendre ses fonctions à la clinique et je suis restée. Officiellement, j'étais très affaiblie par ma grossesse. Je devais demeurer dans le sud pour me reposer. Ta mère est née 7 mois après mon mariage, soi-disant gravement prématurée. Mes parents ont tout arrangé. La bonne société y a cru ou a fait semblant d'y croire. 5 mois après la naissance de ta mère, je suis rentrée à la maison et tout le monde est accouru pour saluer l'arrivée du bébé miraculé. Voilà. Ton grand-père a aimé cette petite comme si elle avait été la sienne. Je dois dire que là-dessus, il n'y a rien à lui reprocher.
Et puis il a trouvé le moyen de me faire 5 enfants, histoire d'effacer par des paternités légitimes la déconvenue originelle.
Bérangère frissonne. Elle a du mal à croire qu'à quelques mètres de là, en bas, au milieu des arbres, il y a une fête, sa fête, longuement préparée dans ses moindres détails. La musique, les rires, la rumeur des voix lui parviennent sans la toucher. Elle se sent engourdie, perdue. En proposant à sa grand-mère de l'accompagner dans sa chambre, elle n'imaginait pas qu'elle serait confrontée à de telles révélations. Quelque chose lui dit que Maddy avait au contraire tout prévu. Depuis le début, elle voulait le lui dire. Elle voulait le lui dire ce soir. Bérangère murmure « Est-ce que maman sait, se doute ?»«
Non, ta mère ne sait rien. Personne ne sait rien. Il n'y a que toi. »«
Pourquoi tu me le dis à moi, Maddy ?»«
Peut-être tout simplement parce que je suis bien fatiguée ce soir. » Et que j'ai envie de parler avant de m'endormir. Je crois que je dormirai à la conscience tranquille quand j'aurai tout raconté.
Bérangère insiste. Pourquoi moi ?
Maddy chuchote. Tu sais, je crois qu'il y a quelque chose de spécial chez toi. Tu es la seule personne qui doit savoir, parce que tu es la seule à avoir quelque chose de lui. Quand je m'en suis aperçue, tu ne peux pas imaginer ce que j'ai ressenti. C'était comme un miracle, comme si je retrouvais des fragments de lui 40 ans après. Quand tu étais petite, à certains moments, tu te mettais à lui ressembler de façon étonnante. Quelque chose dans l'expression du visage, les yeux, c'est difficile à dire. Je me souviens, quand ça arrivait, je te fixais plusieurs minutes, je t'observais, j'attendais que revienne le moment où j'avais entrevu son visage dans le tien. Mais ça ne se reproduisait pas. Ça n'arrivait que par hasard, quand je tournais la tête vers toi sans y penser et que soudain tes yeux me frappaient en plein cœur.
Et puis, en grandissant, tu as pris une manie que déplorait ta mère, une façon bien particulière de te caresser les sourcils quand tu réfléchis.
Bérangère murmure entre rire et larmes. C'est vrai qu'il m'arrive de me gratter les sourcils jusqu'à les user complètement. Je me souviens, les soirs de révision, je me retrouvais avec des sourcils massacrés, tout pelés. Maman hurlait. Mais je soutenais mordicus que ça m'aidait à me concentrer.
Ce qui est incroyable, c'est que ton grand-père, je veux dire ton véritable grand-père, avait exactement la même habitude de se gratter les sourcils chaque fois qu'il réfléchissait. C'est passé en toi, on ne sait comment, et pour moi, c'est comme un miracle. Ma petite, je ne crois pas à la réincarnation, à toutes ces bêtises. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait quelque chose après la mort.
« Ah !» fait Bérangère d'un air désappointé.
« Désolée de te décevoir, ma petite, mais tu vois, il ne me reste plus beaucoup de religion. Je me dis pourtant que certaines choses se transmettent, mystérieusement, d'un individu à un autre, comme une force vitale, un souffle qui fait revivre les morts dans les personnes vivantes. En toi, il y a son souffle à lui, c'est sûr. » Il n'y a qu'en toi que je l'ai retrouvé.
Bérangère pleure dans le noir. Maddy le sent.
Il ne faut pas pleurer, ma chérie. Je ne t'ai pas raconté tout ça pour te faire pleurer. S'il te plaît, ne pleure pas, Bérangère.
Bérangère ravale ses larmes, se tient bien droite dans le fauteuil au milieu des replis de sa robe de soie. Elle dit « Tu n'as pas été heureuse ?»
Maddy murmure avec calme. « Non. » Je n'ai pas été heureuse dans mon mariage. J'ai pourtant fait des efforts. J'ai été la bourgeoise exemplaire qu'on voulait que je sois. J'ai été fidèle à mon mari. Je me suis bien occupée de mes enfants. J'ai organisé des réceptions. J'ai participé à des bonnes œuvres. J'ai accepté de faire taire ma fantaisie, mon envie de vivre. Mais ça n'a pas suffi. Notre mariage n'a pas été heureux. Je n'ai jamais réussi à l'aimer. Lui non plus n'a pas réussi. Il était indifférent. À la fin de sa vie, quand il était si malade, il était même parfois violent. Il ne m'a jamais pardonné de n'avoir pas été le premier. Elle a un petit rire triste. Tu vois, à l'époque, ça comptait beaucoup d'être le premier. Ce n'est pas comme aujourd'hui où c'est presque une corvée.
Bérangère est un peu choquée, mais elle ne dit rien. Elle est habituée aux excentricités et aux provocations de sa grand-mère.
La mort de ton grand-père a été un soulagement. Je sais que ça ne se fait pas de dire des choses pareilles. C'est affreux, mais c'est ainsi. Après, j'ai décidé d'abandonner mon ancienne vie. Je ne supportais plus rien. C'était comme si toute mon existence tombait en miettes. J'aurais pu chercher du réconfort auprès de mes enfants, mais je ne sais pas. Ça a toujours été tellement difficile avec eux. Et puis, ils ressemblent tant à leur père. Même ta mère, c'est dire.
Je n'en pouvais plus. Les grands étaient déjà partis de la maison pour faire leurs études. J'ai mis les derniers en pension et j'ai décidé de vivre ma vie. J'ai fait un peu n'importe quoi,
mais je suis sûre qu'on t'en a parlé.
Oh, ne fais pas l'ignorante. Je suis sûre qu'on t'a raconté un tas d'horreurs sur moi.
Rien qui me fasse douter d'avoir eu la plus merveilleuse, la plus fantastique des grand-mères.
Tu es gentille. Enfin, ce qui est fait est fait. J'ai essayé de m'amuser.
Mais j'ai vite compris que je ne rattraperai jamais le temps perdu.
Et de toute façon, la seule personne que je cherchais dans ce monde n'y était plus. Et puis les petits-enfants ont commencé à arriver. Autant ça ne m'a pas bouleversée d'être mère, autant j'ai aimé être grand-mère. J'étais si heureuse de vous avoir, de m'occuper de vous. Et puis il y a eu toi, qui était sa petite-fille de façon si évidente que j'avais envie de prendre les autres à témoin, de leur dire « C'est incroyable ce qu'elle lui ressemble, vous ne trouvez pas ?» Évidemment, c'était impossible, et cela rendait cette ressemblance encore plus précieuse. Tu étais ma petite adorée, ma petite plus chère que tout.
Elle se tait un long moment, et Bérangère reste sans un mot à lui tenir la main. Elle s'applique à concentrer dans l'étreinte de cette main tout ce qu'elle a de tendresse.
Ma chérie, je voudrais te dire, s'il m'arrive quoi que ce soit, il y a deux ou trois choses. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui les trouve. Dans la table de nuit de ma chambre à coucher, tu verras, c'est très facile. Il faut soulever le dessus en marbre et faire coulisser le panneau du fond. S'il m'arrive quelque chose, je veux que tu ailles récupérer ce qui se trouve derrière. Deux lettres et une photo. Fais-moi plaisir. Débrouille-toi comme tu veux. Mais je veux être enterrée avec ces lettres et cette photo. Tu me promets que tu le feras.
Bérangère ferme les yeux et le petit meuble rococo apparaît très distinctement avec son dessus de marbre rose, ses guirlandes de bois sculptées. Elle murmure
« Oui » en s'étranglant un peu.
« Jure-le-moi. »
« Je te le jure. » Elle ne peut plus s'en empêcher. Elle pleure, elle sanglote tant qu'elle peut, en collant sa joue contre la main de sa grand-mère.
« Bérangère, je ne veux pas que tu sois triste, sinon je vais regretter de t'avoir parlé ce soir. »«
Ne t'en fais pas, ça va aller, ça va très bien. » »«
Je suis si soulagée de te l'avoir dit. Ça me fait tellement plaisir d'avoir eu cette conversation avec toi ce soir. »« Ma chérie, dis-moi que je n'ai pas eu tort. »
Bérangère se redresse, tente de se ressaisir. Sa grand-mère tâtonne et tire un mouchoir de sous son oreiller. Bérangère tend la main dans l'obscurité vers la petite tache claire.
« Ne t'en fais pas, il est propre, » dit sa grand-mère.
« Vu mon état, je ne vais pas chipoter de toute façon. »
Bérangère se mouche longuement, bruyamment, et ce bruit tonitruant, un peu ridicule, les fait rire toutes deux. « Ah, c'est malin !» Je dois être belle avec la morvonnée.
Tu es toujours belle, même quand tu es décoiffée, même quand tu pleures.
Bérangère se mouche encore une fois, serre le mouchoir humide dans sa main. Tu n'as pas eu tort de me parler. C'est juste que c'est tellement d'émotions d'un seul coup, je ne sais pas quoi dire. Je n'arrive pas encore à réaliser. Elle se lève et se penche pour serrer sa grand-mère dans ses bras. Le visage très pâle sur l'oreiller semble apaisé, prête à laisser la nuit le recouvrir.
Laisse-moi te regarder une dernière fois, ma chérie.
Bérangère se demande ce que Maddy entend par « une dernière fois ». Elle préfère ne pas le savoir. La vieille dame la fixe intensément dans l'obscurité. Que peut-elle voir? Sans doute rien d'autre qu'une forme humaine dans une robe claire. Elle murmure.
Tu as une si belle robe de mariée et tellement de chance, Bérangère. Les jeunes femmes d'aujourd'hui ont tellement de chance. Il faut bien en profiter, ma chérie.
Bérangère murmure. Oui, je sais que j'ai beaucoup de chance. Elle serre sa grand-mère contre elle.
Je crois que tu peux me laisser maintenant, ma chérie. Je vais m'endormir. Va rejoindre les invités. Amuse-toi bien.
Bérangère dit, oui, dit, je t'aime. Elle voudrait rester encore un peu, mais n'ose pas contrarier sa grand-mère. Elle l'embrasse, se lève, quitte la chambre, ferme la porte aussi doucement qu'elle le peut. En lâchant la poignée, elle pense, c'est la dernière fois que je la vois. Elle va mourir dans la nuit. Cela s'impose comme une évidence, une certitude qui lui remet les larmes aux yeux. Elle essaie de se raisonner. Elle a eu son lot d'émotions fortes aujourd'hui. Cela favorise sans doute les fantasmes mélodramatiques. Dans le couloir, elle s'arrête un instant, face à un très grand miroir au-dessus d'une commode imitation Louis XV. Ses yeux sont rouges et son maquillage a coulé. Reste calme. Prends le temps de remettre de l'ordre dans tes idées. Face au miroir, elle essuie lentement les traces brunes sous ses yeux, avec le mouchoir qu'elle a conservé serré dans sa main. Elle ne peut pas descendre dans cet état. Elle revient sur ses pas et s'assied sur une petite chaise, tout près de la chambre de Maddy. Quand s'éteint la lumière du couloir, elle ne prend pas la peine d'enclencher à nouveau la minuterie. Elle se sent protégée par l'obscurité. Longtemps, elle reste assise là, immobile. Lorsqu'elle se lève enfin, elle ne sait pas depuis combien de temps elle a quitté la fête, mais elle se dit qu'il faut y retourner. Elle allume la lumière et marche vers l'escalier. Elle s'arrête devant le miroir. Son visage est à nouveau présentable. Elle caresse du doigt l'arc de ses sourcils, arrange une mèche sur son front et demeure un long moment face à son reflet. Elle sourit. Elle est belle. La fête a été réussie comme elle l'espérait. Tout était harmonieux, élégant. Et ce ciel magnifique, ce soleil, les gens s'en souviendront comme d'un jour heureux. Pourquoi, alors, cette tristesse persistante et ce sentiment violent d'un bonheur menacé? Peut-être parce qu'une moto a dérapé sous la pluie il y a 60 ans. Elle se met à descendre lentement l'escalier, évitant le regard de verre des bêtes empaillées. Arrivée au palier, à mi-chemin, elle aperçoit Vincent qui vient à sa rencontre. « Qu'est-ce que tu as fabriqué avec ta grand-mère? Ça fait plus d'une heure que tu es montée. Je commençais à me demander. » Elle ne répond pas. Elle reste immobile. « Tu sais que tu es belle comme ça, avec ta longue robe dans le grand escalier. On dirait une reine de music hall. » Un instant, elle se demande s'il se moque d'elle. Mais non. Il sourit et lui ouvre les bras. Il ne se moque pas d'elle, il l'aime. Elle n'a pas envie de rejoindre les invités. Elle voudrait quitter la fête et rester seule avec son mari. Alors elle se détourne et remonte en courant. « Bérangère, mais qu'est-ce qui te prend ?» Lorsque Vincent arrive en haut des marches, elle l'attend, assise par terre dans l'obscurité. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» Il s'assied à ses côtés. « Tu es triste ?»«
Non. »«
Tu m'aimes ?»«
Oui. »
Les fronts se touchent presque. Il lui prend la main et sent l'alliance à son doigt. Il voit ses paupières baissées, le dessin de sa bouche, grave et volontaire. Il sait qu'elle a pleuré. À cet instant, son cœur se serre et se déploie. Il n'a plus aucun doute. Elle relève la tête, le regarde un instant sans rien dire, puis murmure. « Vincent, promets-moi. »
« Te promettre quoi, ma chérie ?»«
Promets-moi qu'on va réussir notre vie. » Et, dans l'obscurité, il voit briller ses yeux sans savoir s'il l'implore ou le défie.